Et nous sommes en ligne, je vous le disais à l'instant, avec Pierre Lursa, qui est à Jérusalem. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Bernard.
Pierre, vous êtes essayiste, vous êtes traducteur aussi, vous avez traduit des livres importants, notamment ceux de Jabotinsky en français. Vous êtes l'auteur d'une bonne dizaine d'ouvrages, dont le dernier s'appelle « Quelle démocratie pour Israël ?» Le gouvernement du peuple ou le gouvernement des juges, et on comprend au travers de ce titre explicite que vous réfléchissez notamment sur la question de la Cour suprême et de la crise que traverse actuellement Israël. D'ailleurs, à la fin de votre ouvrage, qui est un ouvrage court, rapide et très agréable à lire, vous essayez de démonter un certain nombre de choses qui sont dites sur la réforme actuelle, notamment que ce n'est pas du tout un truc qui sort du milieu du désert, par exemple, puisque c'est ce que pense à peu près tout le monde. Qu'est-ce qui a pris à Netanyahou? Vous dites non, c'est le fruit d'une longue histoire. Mais je voudrais, Pierre Lursa, auparavant, vous faire écouter. Moi, je pense que c'est beaucoup d'honneur parce que c'est un des auteurs français les plus prestigieux. Il s'appelle Pierre Rosin-Vallon.
Oui.
C'est un historien qui est d'ailleurs aussi sociologue, mais c'est surtout un historien. Et il est le spécialiste de la démocratie en France. On va l'écouter. Il parle d'accord. Au lendemain du discours d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'entendre ce qu'il dit, c'était dans l'émission Quotidien.
Pour lui, il n'y a pas de crise démocratique. Il pense que les institutions ont fonctionné et effectivement, toute la séquence que nous venons de vivre est conforme à la Constitution. Oui. Il y a eu le 49-3, c'est conforme à la Constitution. Il a promulgué rapidement une loi, c'est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a rendu son avis, c'est conforme à la Constitution. Du point de vue du fonctionnement constitutionnel, tout va bien, mais la démocratie ne vit pas simplement de la lettre de la Constitution. La démocratie, elle vit aussi de l'esprit des institutions. Quelqu'un qui a fait des études supérieures, ce qui est son cas, a certainement lu le livre de Montesquieu sur l'esprit des lois. Ben, on oublie trop cela aujourd'hui. C'est qu'il y a un esprit de la démocratie, un esprit des institutions. La lettre est respectée, mais l'esprit est bafoué.
Alors là, Pierre Lursa, c'est de l'or pour vous, parce que si on veut essayer de réfléchir sur les deux pays qui nous sont chers, Israël et la France, il y a deux choses. La première, l'esprit de la démocratie. Tout ce que dit Tel Aviv aujourd'hui, c'est ça. C'est vrai, vous avez le droit, vous avez des députés, vous avez 61 députés, vous pouvez changer. Vous ne respectez pas l'esprit d'un État juif et démocratique. Tout ce que répond la majorité, un instant Pierre, tout ce que répond la majorité, c'est le contraire. La Cour suprême ne respecte, elle respecte que les textes, elle dit tout le contraire. On est en plein dans Rosin-Vallon. La droite israélienne dit, mais la Cour suprême ne respecte pas l'esprit d'Israël. Elle respecte des lois qui d'ailleurs plairaient probablement beaucoup à Pierre Rosin-Vallon, mais il ne connaît pas, par exemple, des éléments de halakha, des éléments de lois juives. On est en plein dans l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, l'auteur de ce livre qui s'appelle « Quelle démocratie pour Israël ?» quand vous entendez Pierre Rosin-Vallon.
Oui, c'est intéressant. Moi, je cite encore dans mon livre un autre Pierre, c'est Pierre Manant. Et effectivement, c'est toujours intéressant de se référer à d'autres exemples, de faire des comparaisons. Et moi aussi, je cite Montesquieu dans mon livre. Mais ceci dit, le cas d'Israël est tout à fait spécifique. Et moi, je dirais, pour poursuivre votre comparaison, je dirais qu'en Israël, c'est l'histoire que je retrace un peu dans mon livre, la Cour suprême, depuis 30 ans, c'est pas seulement qu'elle respecte pas l'esprit de la démocratie, c'est qu'elle respecte pas non plus la loi. Et c'est que elle fait des choses que personne ne l'a jamais autorisé à faire, y compris le Parlement israélien, la Knesset, parce que, et c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui la Cour suprême en Israël est devenue le premier pouvoir, et tout le monde nous parle toujours des contre-pouvoirs indispensables, mais aujourd'hui, il nous faut un contre-pouvoir au pouvoir tout à fait sans limite de la Cour suprême. Et l'enjeu de la réforme judiciaire, c'est finalement de redonner du pouvoir à la Knesset et à travers elle au peuple d'Israël. Et donc c'est de rétablir, je dirais, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui ont été affaiblis de manière tout à fait considérable et très inquiétante par le pouvoir exorbitant de la Cour suprême.
Alors vous dites deux choses qui sont différentes. Pour vous, c'est la même chose et c'est tout à fait différent. La première, vous dites, c'est le premier centre de pouvoir en Israël. Non, parce que par exemple, la Cour suprême ne déclare pas la guerre. Donc non. Par contre, vous dites, c'est sans limite. Et je vais vous citer, puisque vous reprenez, et sans limite, vous avez raison, puisque c'est le but. C'est la Cour suprême. Il n'y a pas de recours après. C'est ça le le principe du contre-pouvoir. Et vous citez celui qui est à l'origine de toute la polémique, en fait, c'est un juge, qui est le juge Barak. Et c'est lui qui a fait une réforme sur laquelle veut revenir aujourd'hui Benjamin Netanyahou. Et il dit la chose suivante, je le lis dans votre ouvrage. Une démocratie de la majorité seule, qui ne s'accompagne pas d'une démocratie de valeur, n'est qu'une démocratie formelle et statique. La vraie démocratie limite le pouvoir de la majorité afin de protéger les valeurs de la société. Alors ça, c'est la base. En fait, voilà. Tout ce que pense le juge Barak, je vais vous dire, d'après moi, tout ce que pense Pierre Rosanvallon, c'est ça.
C'est... Oui, sans doute, parce que c'est une conception qui aujourd'hui est très répandue, et je l'explique dans mon livre. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens, y compris tous les manifestants qu'on voit à Tel Aviv, surtout à Tel Aviv, vous avez raison de le dire, ils manifestent au nom de ce qu'ils appellent, de ce qu'ils considèrent comme la démocratie des valeurs. C'est pour ça qu'ils défilent avec des drapeaux israéliens et aussi des drapeaux LGBT, parce que pour eux, il ne peut pas y avoir une démocratie qui ne met pas en avant les droits LGBT. Donc vous voyez qu'on est en plein dans un débat de valeurs et de société, et le problème, à mon avis, un des problèmes majeurs, c'est que sur un problème de société et de valeurs, et on sait bien qu'Israël est divisé sur ses valeurs, évidemment, il y a un gouffre qui sépare Jérusalem et Tel Aviv, pour reprendre votre image, et bien c'est pas la Cour suprême qui a le dernier mot, qui doit avoir le dernier mot, parce que sur les débats de société, ce ne sont pas les juges qui doivent trancher, c'est le peuple, ce sont ses représentants, et là on est au cœur du problème.
Mais d'abord déjà juste une précision, pour moi Tel Aviv c'est un esprit, hein. C'est pas seulement, parce que c'est pas la minorité que veut présenter aujourd'hui l'équipe au pouvoir en disant ouais c'est rien, c'est les gens de Sderot Rothschild. Tel Aviv c'est tout Gush Dan, c'est Batiam.
Oui bien sûr, hein, je dis pas que c'est que
c'est
pas que
beaucoup de monde, c'est plus d'un million de personnes. Et d'ailleurs il y a des manifs à Jérusalem. On écoute de nouveau Pierre Rosanvallon avec votre permission.
Oui, je suis en colère parce que ce que je vois en tant qu'historien, c'est que je pense que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait connue. Mai 68, justement, c'était tranché. Qu'a fait le pouvoir ? Les manifestations commencent le 6 mai et à la fin juin, il y a une dissolution de l'Assemblée. Donc ça, c'est une façon de trancher. Et De Gaulle lui-même, après... a tenté de réinventer les institutions, il a échoué et il a démissionné. Donc je crois que l'épisode de 68 montre au contraire qu'il y a eu de la part des institutions le sens de ce que voulait dire gérer une crise.
Donc on a bien compris, Rosanvallon répond, on est nous ici en France, et il répond après le discours d'Emmanuel Macron qui effectivement a donné l'impression d'être comme le décrit Rosanvallon. Mais la gauche, les libéraux, les opposants au gouvernement disent la même chose de Netanyahou. Ils disent, je crois que là maintenant on va vers une crise parce que qui est beaucoup plus importante que la simple histoire d'une réforme. Vous savez par exemple que Fabius, il a été nommé en France pour diriger le Conseil constitutionnel. C'est comme par hasard, c'est un socialiste, il a été nommé. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème de savoir comment on, c'est pas que c'est le Parlement qui ou le Sénat ou le président de la République qui nomme les juges. C'est l'esprit, encore une fois. C'est ce que dit Rosanvallon et c'est d'ailleurs ce que vous décrivez dans votre livre. Aujourd'hui, l'opposition à Netanyahou dit, il a tellement pas compris ce qui se passe. Il a tellement essayé de changer le pays. C'est quand même, comment ça se fait qu'il y a autant de manifestations en Israël avec l'accession au pouvoir d'un homme de droite? C'est pas depuis hier qu'il y a un homme de droite au pouvoir, c'est depuis 1977. Pourquoi tout ça aujourd'hui?
Et il dit,
oui, vous êtes mon invité, bien sûr, c'est vous que je veux entendre, c'est pas moi. Mais par contre, laissez-moi s'il vous plaît juste finir ma question. L'opposition dit, il comprend pas. Il comprend pas que qu'il est en train d'essayer de changer le pays et que nous, on le laissera pas faire.
Oui, alors écoutez, la comparaison avec la France, elle me paraît quand même un petit peu trop aventureuse, parce que d'abord Netanyahou et Macron, c'est quand même pas du tout la même chose. Netanyahou, ça fait il a été premier ministre pendant de plusieurs décennies, il est de la stature d'un David Ben-Gourion ou d'un Menachem Begin. Voilà, il a battu le record de longévité politique,
etc. Vous êtes un homme intelligent, Pierre. On peut quand même avec vous entendre des grands penseurs et voir ce qui se passe dans un pays, dans un autre, sans qu'on nous dise non mais attention, c'est pas pareil. Évidemment que c'est pas pareil.
Oui, Oui, mais alors il y a quelque chose de commun, effectivement, c'est qu'il y a une crise des institutions, mais avec une différence énorme. Et cette différence-là, c'est un peu ce que je relate aussi dans mon livre, c'est qu'on ne peut pas comparer la situation de la France, dont un pays avec des institutions très anciennes, avec un jeu démocratique qui a fonctionné pendant pendant presque des siècles, alors qu'en Israël, on est dans un très jeune pays qui n'a pas de constitution et dans lequel, comme je le raconte, la Cour suprême est devenue le premier pouvoir, ce qui n'est pas le cas du Conseil constitutionnel en France. Le constitutionnel, il a un rôle bien établi, il peut annuler des lois, mais il y a une procédure bien définie qu'il a été autorisé par le Parlement. En Israël, les choses sont très différentes. Et alors c'est vrai qu'il y a une crise démocratique, il y a une crise des institutions, il y a une crise de confiance. Et moi, je vois pas seulement ça comme le fait que les manifestants reprochent à Netanyahou de ne pas avoir compris ce qu'il faisait. Et vous posez une très bonne question. Vous dites la droite est au pouvoir depuis 77. Eh bien, on peut en discuter. Effectivement, elle avait gagné les élections en 77, mais quelque part, la droite n'a jamais vraiment occupé le pouvoir, au sens où il y a toutes sortes de contre-pouvoirs, où il y a toutes sortes de ce qu'on appelle aussi le deep state, l'état profond, qui lui reste de gauche en Israël, que ce soit l'université, que ce soit les médias, que ce soit justement la Cour suprême. Donc vous voyez que la droite, quelque part, n'a pas encore pris le pouvoir, et c'est un peu l'enjeu de cette réforme judiciaire.
Je suis absolument pas d'accord avec vous. Prenons par exemple ce qui a vraiment été le rôle historique de la droite israélienne, c'est la terre. On a poursuivi l'implantation en Judée-Samarie sans aucun contre-pouvoir, justement, puisqu'on fait un avant-poste. Quelques semaines plus tard, l'avant-poste est relié à l'électricité. Le jour même, d'ailleurs, il est défendu par l'armée israélienne. Et 3 ans plus tard, il est officialisé. La Cour suprême n'a jamais pu.
Le
rôle historique de la droite israélienne,
mais...
c'est la terre. Le rôle historique de la gauche, c'est Shalom Arshav. Le rôle historique de la droite, c'est la terre. Elle n'a jamais été entravée dans ce qui est son projet principal. Par contre, ce qui est nouveau depuis quelques années, et ce qui fait peut-être le caractère le plus strident de cette opposition, c'est la religion. Et c'est là que les Israéliens qui ne sont pas d'accord avec vous, Pierre, ont peur. C'est ce que veut faire...
Oui, bien sûr.
Et voilà. Ce que, si les orthodoxes... Par exemple, prenons le chasse. Je l'ai dit dimanche dans ma chronique. Le chasse, en fait, jusqu'à présent, c'était un parti qui disait « Moi, je suis la mezouza devant la porte de la maison. Je suis là pour garantir qu'Israël reste un pays juif. » D'accord ? Beaucoup de gens votent chasse. Si le chasse dit « Moi, je dois être le garant du fait que il y aura des bus séparés pour les hommes et pour les femmes », c'est plus la même histoire. J'attends votre réponse là-dessus, évidemment. Et je cite de nouveau un passage de votre livre dans lequel vous dites la Cour suprême intervient maintenant dans presque tous les domaines. État et religion, éducation, politique étrangère, sécurité, nomination des hauts fonctionnaires et de ministres, etc. On aurait peine à trouver un seul domaine dans lequel elle n'intervient pas aujourd'hui. Mais c'est son rôle. C'est son rôle. Vous n'aimez pas les décisions qu'elle prend, d'accord. Donc revenez sur le fond, sur ce que vous avez dit avant. Les décisions qu'elle prend ne correspondent pas au pays profond, à ce que veulent les Israéliens. Pierre,
absolument.
Je vous écoute.
Absolument. La Cour suprême représente sociologiquement une petite minorité. Autrefois, quelqu'un avait dit que c'était la cellule de Meretz de Jérusalem, sauf que le parti Meretz, aujourd'hui, il n'est même plus représenté à la Knesset. Donc vous voyez que la Cour suprême, malgré les petits changements cosmétiques qui ont lieu ces dernières années, globalement, elle reste quand même le représentant de ce qu'on pourrait dire le public ashkénaze laïque de gauche. Donc vous voyez, c'est pas... Et c'est bien... C'est un des gros problèmes, c'est que le public israélien ne se sent plus représenté par ces juges qui interviennent dans tous les domaines. Et vous parlez avec raison du domaine de l'État et religion, qui est effectivement une des questions cruciales en Israël, dans le débat public. Et les manifestants, effectivement, d'ailleurs, il y a beaucoup d'exagération, parce que l'enjeu de la réforme et l'enjeu de ce qu'il y a derrière, l'enjeu de ce gouvernement, c'est pas de faire d'Israël une théocratie, c'est simplement, je dirais, de rétablir un statu quo qui existe depuis 1948 et qui a été largement érodé dans un sens contraire aux valeurs juives. C'est-à-dire qu'Israël est devenu un État de moins en moins juif. Je parle du respect du Shabbat dans l'espace public, de choses comme ça, de sujets qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec les libertés individuelles, parce qu'aucun parti religieux ne souhaite une coercition religieuse sur le plan individuel. L'enjeu du débat, c'est uniquement le respect du Shabbat dans l'espace public, c'est-à-dire le caractère juif de l'État au sens large. Et sur ce sujet-là, il y a eu une érosion dans un sens de moins en moins juif, avec l'aval de la Cour suprême, qui a toujours considéré que juif et démocratique, ça voulait dire sûrement surtout démocratique, et ça ne voulait pas vraiment dire un État juif.
Alors, on écoute une dernière fois Pierre Rosanvallon. Pierre, s'il vous plaît, ne me dites pas, il parle de la France. Oui, il parle de la France. On écoute Pierre Rosanvallon.
Le mot dérive autoritaire, elle n'est pas, c'est pas une dérive autoritaire en ce sens où il y a simplement plus de policiers dans les rues, etc. C'est une dérive autoritaire par cécité, si je puis dire, par aveuglement sur ce qu'est véritablement l'adhésion démocratique. Et donc, autorité, là, veut dire simplement gouvernement d'en haut. Mais vous savez, la définition romaine de l'autorité, c'est la capacité de se faire, d'accepter, de faire accepter des décisions sans violence et sans coercition, et puis surtout, sans argumentation à n'en plus finir. Donc, quelqu'un qui a de l'autorité, c'est celui-ci. C'est celui dont la parole a suffisamment de vérité, a suffisamment de force pour qu'il ne soit pas obligé d'envoyer sa police et qu'il ne soit pas obligé de raconter des histoires. Et c'est cela, Emmanuel Macron est un personnage qui n'est pas romain. Parce que lui qui aime l'Antiquité, eh bien, il n'a pas du tout cette stature de l'autorité que dont Cicéron considérait qu'elle était la plus grande des vertus politiques. Parce qu'on ne gouverne pas simplement par la force, on gouverne parce qu'on a une autorité reconnue. Le pouvoir n'existe pas s'il n'y a pas de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est Guizot lui-même, un libéral, qui disait on ne gouverne pas avec des préfets, on ne gouverne pas avec des policiers, on gouverne parce qu'on est capable de saisir la société dans ses intérêts, dans ses passions, dans ses réalités.
Voilà, donc Pierre Rosanvallon parle de la France, il en parle d'ailleurs vraiment avec brio. Et je me tourne vers vous à Jérusalem, Pierre Lursa, pour deux choses qui se suivent. La première, c'est que c'est intéressant pour nous juifs, c'est que Pierre Rosanvallon il dit regardez l'exemple de hauteur du pouvoir romain, alors que pour nous juifs, les romains, c'est le maximum du tortionnaire. Il faut voir comment Rabbi Akiva est mort, déchiré par une herse sur le mont du temple. C'est crime de guerre sur crime de guerre, les romains. Et surtout, la volonté de faire en sorte que les juifs perdent tout ce qu'ils ont, donc tout le contraire de ce que dit Cicéron. Mais. Ça, c'est juste pour introduire ma question. Ma vraie question, elle est là. De nouveau, l'opposition considère, et vous êtes là pour nous donner votre opinion, qui bien sûr sera contraire à ce que je vais dire à l'instant. L'opposition israélienne considère que ce gouvernement a totalement perdu ce côté régalien, a totalement, vous voulez que je vous dise, a perdu totalement les épaules que Benjamin Netanyahou a eues toute sa vie. Il considère ça. Il considère qu'il n'a plus ces épaules-là. C'est un rendez-vous un rendez-vous de gens qui ont des intérêts économiques, de gens qui sont ou que d'autres ont des intérêts extrémistes. Et l'opposition, il y a une vraie crise de régime aussi en Israël pour ça. C'est que le pouvoir donne l'impression à ceux qui s'y opposent qu'il n'a plus cette. Il n'incarne plus le pouvoir comme on l'attend de lui. Et il demande à ce qu'il parte. Et ils sont sincères, c'est ça. C'est pour ça que ça devient intéressant. C'est qu'ils sont sincères,
oui.
Ils pensent. C'est un rendez-vous de gens qui...
Oui, j'ai bien compris, Bernard, mais avec un petit bémol, c'est que les gens qui manifestent aujourd'hui, beaucoup d'entre eux manifestaient déjà avant les dernières élections. Depuis plusieurs années, il y avait des manifestations de Balfour, et la plupart des organisations qui manifestent, en fait, manifestent depuis des années contre Netanyahou. Donc, quelque part, ils refusent à Netanyahou le droit d'être Premier ministre avant même ces dernières élections, et bien avant donc la réforme judiciaire. Donc, vous voyez que l'enjeu de ces manifestations, il dépasse effectivement celui de la réforme. C'est quelque part, c'est un prétexte. C'est le dernier prétexte qu'ils ont trouvé pour manifester et alors, effectivement, on peut pas. Moi, je considère que cette réforme, elle est légitime. Je considère qu'elle vient rétablir un équilibre des pouvoirs qui a été bafoué depuis 30 ans. Et je considère que le vrai débat sur la nature, sur l'identité d'Israël, eh bien, lui, effectivement, c'est un débat qui nous accompagne depuis 50 ans, depuis 75 ans plutôt, et qui ne va pas disparaître et qui ne va pas être tranché en quelques semaines ou en quelques mois. Effectivement, on est au cœur d'un débat tout à fait essentiel pour Israël.
Pierre Lursa, merci d'être intervenu en direct de Jérusalem. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « Quelle démocratie pour Israël ? Gouvernement du peuple ou gouvernement des juges ?» Et je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci à vous Bernard. Kol tov, Shalom.
Gamlecha.